Bonsoir à toutes et à tous, voilà. Bienvenue dans De Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h, une émission préparée par Mélanie Chalandon, Céline Leclerc, Fanny Richer, Nicolas Ignatieff, réalisée par Jean-Christophe Francis, à la prise de son Clément Daté. Enfin, une bonne nouvelle pour le PDG de Radio France. Mathieu Gallet n'a pas abusé des deniers de la maison, que ce soit pour rénover son bureau, changer sa voiture ou soigner son image. C'est l'IGF qui le dit. L'Inspection Générale des Finances vient donc de rendre son rapport. Elle considère que les dépenses révélées par le canard enchaîné ne présentent pas de caractère anormal ou disproportionné par leur nature ou leur montant. Ces conclusions, très favorables au patron de la radio publique, suffiront-elles à restaurer la confiance et le dialogue avec les salariés et leurs représentants? Rien n'est moins sûr tant la grève aura été longue, quasiment un mois, et les relations tendues quand elles n'étaient pas inexistantes entre les syndicats d'un côté, la direction de l'autre. Ce ne sont pourtant pas les instances de dialogue qui manquent dans l'entreprise, celle-ci d'ailleurs comme les autres de cette taille. La loi organise la représentation des salariés via les délégués du personnel par exemple, les comités d'entreprise ou encore les CHSCT. Mais il est vrai que cette organisation n'est peut-être plus suffisamment performante, raison pour laquelle le gouvernement a décidé de légiférer sur le sujet. Mercredi matin, le ministre du Travail, François Rebsamen, présentera son projet de loi relatif au dialogue social, un texte qui vise à simplifier les rapports au sein des entreprises, à mieux représenter les salariés dans les petites structures et peut-être à limiter à terme la conflictualité. Alors, conflit social, comment maintenir le dialogue? C'est notre sujet du jour. Et pour en discuter, trois invités ce soir. Jean-Luc Vergne, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes un ancien DRH, directeur des ressources humaines. Depuis peu à la retraite, vous avez travaillé pour Sanofi, Elf Aquitaine, PSA Peugeot Citroën, BPCE, qui est le regroupement des banques populaires et des caisses d'épargne. Et vous racontez votre parcours professionnel dans Itinéraire d'un DRH gâté, qui a été publié aux éditions Erol. C'était en 2013. Pour discuter, voire peut-être négocier, on ne sait pas, ce soir avec vous, Christian Larose, bonsoir.
Bonsoir.
Syndicaliste, vous avez fait toute votre carrière à la CGT, que vous avez rejoint, je crois, en 1968. Vous avez dirigé la filière textile de ce syndicat pendant combien d'années?
23 ans.
Vous racontez ce parcours, vous aussi, dans un autre livre, également publié en 2013. Ça s'appelle « Itinéraire d'un syndicaliste, un parcours accidenté », publié chez Pascal Gallaudet, éditeur. Vous avez eu, au cours de votre carrière, l'occasion d'intervenir dans le conflit Celatex, et vous en avez tiré un récit collectif. C'était en 2001, c'est peu de temps d'ailleurs après ce conflit, ça s'appelle « Celatex, quand l'acide a coulé ». On aura peut-être l'occasion de revenir notamment dans la discussion sur ce conflit. Alors je vous ai placé chacun d'un côté de la table, l'ancien syndicaliste, l'ancien DRH, Claude-Emmanuel Trillon. Je ne vous ai pas mis exactement au milieu parce que notre studio le permet pas, mais enfin on va dire que symboliquement vous y êtes. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes un ancien inspecteur du travail, vous êtes aujourd'hui délégué général d'Astrée. Astrée pour Association Travail Emploi Europe Société, qui œuvre à la diffusion de pratiques sociales novatrices. Vous êtes par ailleurs le directeur de la publication métiseurope.eu, qui est un site consacré aux mutations du travail en Europe. On met le lien sur notre site, hein, sur la page du Grain à Moudre. Vous avez eu des expériences de médiation, Claude-Emmanuel Triomphe?
Alors, j'ai eu évidemment des expériences de médiation dans la première partie de ma vie professionnelle, assez nombreuses d'ailleurs. Et aujourd'hui, dans le cadre de notre association, de notre recherche d'innovation sociale, on est moins sur ce sujet-là que quand même sur le sujet de quel dialogue social performant et contemporain pour les entreprises et pour les lieux de travail en France et en Europe.
Alors ce soir, on va plutôt s'intéresser au moment où le dialogue social apparaît un peu moins performant. Encore, peut-être d'un mot, puisque j'évoquais votre situation dans le studio, Claude-Emmanuel Triomphe, un médiateur, quand il arrive dans une négociation où c'est forcément tendu, sinon il n'aurait pas été nommé entre la direction et les représentants syndicaux, comment il se positionne?
D'abord, sa première position, c'est d'être à l'écoute.
J'entendais physiquement, hein, parlant.
Mais il se positionne justement entre les parties. Il ne prend pas parti, il est à l'écoute, ça ne veut pas dire forcément qu'il va être neutre à la fin, mais il est d'abord à l'écoute, il est surtout à l'écoute, et ensuite, éventuellement, il fait un certain nombre de propositions dont il va penser qu'elles peuvent être acceptables pour chacune des parties.
Alors, on ne va pas évidemment passer l'émission sur la grève à Radio France, parce qu'il ne s'agit pas de revenir sur ce conflit-là en particulier. Mais enfin, c'est vrai que c'est quelque chose qui a beaucoup bousculé les salariés de la Maison Ronde. Christian Larose, quand il y a une grève, est-ce que d'après vous, c'est toujours le signe qu'il y a eu un échec du dialogue social, où les deux ne sont pas forcément liés?
C'est-à-dire que le conflit n'est pas forcément malsain, mais quand il y a une grève et que... plusieurs syndicats, l'ensemble du personnel est en désaccord avec ce qui est présenté par la direction, soit dans les réorganisations, soit dans les plans sociaux, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Donc je crois qu'il faut prendre le temps de dialoguer, le temps d'écouter. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que quand il y a une situation comme ça, il n'y a pas le professeur et les élèves. Il n'y a pas celui qui sait et ceux qui écoutent. Il y a chez les uns et chez les autres des positions qu'il faut écouter, et les syndicats ont des positions qui peuvent y compris servir l'entreprise. Je veux dire que quand il y a du dialogue, il y a un conflit, il faut dialoguer et il faut prendre le temps. On nous dit trop souvent on n'a pas le temps, il faut aller vite, la réforme est nécessaire, etc. Or, il faut prendre le temps du débat, il faut prendre le temps d'écouter et il faut prendre le temps de corriger. Si nécessaire.
Il faut prendre y compris le temps de discuter pour sortir de la grève, ne pas chercher à tout prix à en sortir le plus vite possible, Jean-Luc Vierne, quand ça arrive. J'imagine que vous avez été confronté à ce genre de situation.
J'étais confronté, oui, à des conflits, en 40 ans ou 43 ans d'activité. Mais permettez-moi juste de rappeler un point, c'est que j'ai vécu les conflits dans les années 70, qui touchait bien plus de monde, qui avait une dimension de nature différente. Il y avait d'ailleurs 4 à 5 millions de jours de grève dans les années 70. On tourne maintenant entre 400 et 500 000. Alors c'est surtout la nature des conflits qui a évolué. À l'époque, c'était des conflits qui étaient des conquêtes de droits. Le grain à moudre, les salaires, par exemple. Hein. Maintenant, c'est quand même une nature plus défensive. On défend... un emploi, c'est l'inquiétude, c'est l'anxiété, les motivations sont défensives.
Est-ce que vous diriez, Jean-Luc,
ils sont de
que...
nature plus catégorielle aussi. Ouais. C'est-à-dire, ils touchent moins d'entreprises et souvent ils vont toucher, on l'a vu, avec des infirmières, avec des cheminots, avec, etc., des catégories.
Est-ce que vous diriez que le fait que le nombre de jours de grève est considérablement diminué en France, c'est le signe que le dialogue social est meilleur, ou bien là aussi les deux choses ne sont pas forcément liées?
C'est quand même un signe, parce que parallèlement, c'est le nombre d'accords qui ont pu être signés dans ces périodes. Et surtout des accords dans les entreprises. Il y en avait à peu près, il y a dans les années 80, 5 000 accords signés par an. On tourne maintenant entre 30 et 35 000. Il y a eu les lois où les lois aussi obligent maintenant des thèmes nouveaux de négociation qui n'existaient pas à une époque. C'est sur les risques psychosociaux, c'est sur la diversité, c'est sur l'égalité, enfin, etc. Donc les partenaires ont plus d'occasions. Mais c'est pas pour ça que j'irais jusqu'à dire que le dialogue social est peut-être de qualité meilleure. Il y a quand même des chefs d'entreprise qui ont pris conscience que on ne peut pas avoir une performance économique sans performance sociale. Et ça, c'est quand même, je crois, une évolution, parce que les gens ont bien vu qu'on ne peut pas dissocier l'un et l'autre. Et ça me semble être un élément important.
Claude-Emmanuel Triomphe, sur cette question entre le rapport... d'un côté, le nombre de jours de grève et l'état du dialogue social.
Je pense que c'est un rapport très complexe. Comme Jean-Luc Vierne l'a dit, les grèves des années 70 sont très différentes des grèves d'aujourd'hui. Je voudrais surtout ajouter que, en Europe, nous sommes de loin le pays qui ne fait pas le plus la grève, contrairement à toutes les idées reçues. Simplement, dans un certain nombre de pays, pardon, il y a aujourd'hui plus de jours de grève par salarié dans des pays qui sont présentés comme des modèles de dialogue social, je pense à l'Autriche, je pense à la Suède, etc., mais où on a affaire à des grèves organisées, revendicatives en général, et beaucoup moins défensives qu'en France, et pas forcément liées à des conflits catégoriels.
Donc plus il y a de grèves, meilleur le dialogue social est. On pourrait renverser finalement la proposition, ça peut paraître étonnant.
La réponse est, ça dépend, parce que ça dépend du type de grève, ça dépend du type de conflit, et j'ajouterai une autre chose. Oui, le nombre de conflits collectifs en France a beaucoup régressé. Il y a quand même une grosse exception, c'est dans le secteur public et notamment dans les secteurs qui touchent, je dirais, à tout ce qui est les réseaux et notamment les réseaux de transport. Et la deuxième chose, quelque chose par contre qui ne régresse pas beaucoup en France, ce sont les conflits individuels de travail. Donc les conflits individuels de travail restent à un niveau élevé. Et c'est le signe quand même qu'il y a beaucoup de choses qui aujourd'hui ne se visent plus sur le plan collectif, mais qui se vivent sur le plan individuel.
Et cela, forcément, ils sont moins visibles. Jean-Luc Vergne.
Pour compléter ce que dit notre ami M. Triomphe, c'est qu'aussi la forme de ces conflits, maintenant, on a de plus en plus de débrayages qui sont brefs et répétitifs. Et c'est plus des on met quelques cas que vous avez rappelés tout à l'heure, d'actualité. Mais c'est plus comme à une certaine époque des semaines, voire des mois, comme on a pu le connaître. Et deuxièmement, on voit aussi une nouvelle forme apparaître, qu'on a pu voir en particulier chez les infirmières ou les cheminots, pour citer, c'est des coordinations. C'est-à-dire, c'était une forme, sous l'égide de Sud d'ailleurs, qui n'existait pas auparavant. Alors, voilà dans la nature même de ces conflits. Mais à votre question de fond, un conflit, il ne faut pas se leurrer, c'est le résultat d'un échec dans le dialogue. Je laisse de côté quand une organisation, pour des problèmes existentiels, fait un débrayage. Ce n'est pas un conflit, ça, si vous voulez. C'est pour montrer qu'elle existe et se positionner par rapport à d'autres, etc. Mais c'est le résultat d'un échec. Parce que d'un conflit, moi j'ai l'habitude de dire un conflit long en particulier, j'en ai vécu, mais il n'y a pas de gagnants, il n'y a que des perdants. Que ce soit l'entreprise, que ce soit les salariés, que ce soit les organisations syndicales, c'est l'image, c'est la crédibilité, c'est les rémunérations, c'est les clients qu'on a perdus, enfin, etc. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et c'est pour ça que je crois que un conflit, certains diront, ça pousse pour en sortir à faire un dialogue sur le fond, c'est sa vertu. Mais bon, si j'y vois une vertu positive, je crois qu'il vaut mieux dialoguer sans passer nécessairement par le conflit.
Vous êtes d'accord avec ça, Christian Larose ?
Oui, je crois qu'il y a eu une évolution, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conflit. Il y a beaucoup de conflits, d'abord, qui sont un peu médiatisés, et puis il y a des choses nouvelles qui sont arrivées. Regardez ce qui s'est passé à France Télécom. S'il y a eu le Premier ministre à l'époque, Fillon, nous avait demandé un rapport, Henri Lachmann, Pénicaud, Muriel Pénicaud et moi, sur les risques psychosociaux, parce que de partout, on a des gens qui craquent, et que la santé au travail est une chose très importante. Et je pense d'ailleurs que dans la manière de manager, je prétends que ceux qui ont les meilleurs résultats sur le plan économique sont souvent ceux qui ont la meilleure politique sociale. Or, il y a un lien de cause à effet, et on a vu des choses nouvelles arriver et difficiles à gérer. Et la forme des conflits, certes, c'est un peu modifié, mais moi, ce que je crois aussi, c'est, et on l'a vu à France Télécom notamment, mais pas seulement à France Télécom, mais aussi ailleurs, il y a le conflit et il y a la méthode. Et sur la méthode, quand même, on a un certain nombre de problèmes. Moi, je pense que on ne peut plus aujourd'hui espérer manager par la pression. On avait fait un rapport sur le bien-être au travail en disant les meilleurs résultats économiques seront obtenus quand les gens seront motivés pour aller au travail. Bon, je pense que sur le management, il y a de gros efforts à faire. Et aujourd'hui, ceux qui dirigent les entreprises, ils peuvent pas se comporter comme ils se sont comportés il y a quelques années. Et donc, on voit de plus en plus de difficultés, y compris individuelles, se multiplier un certain nombre de dossiers prud'homaux où les gens se défendent comme ils peuvent. Ça s'est modifié. Mais je pense qu'il faut que dans les entreprises, on apprenne à manager par l'humain. Et ça, croyez-moi, c'est pas gagné.
Est-ce que vous diriez, Claude-Emmanuel Triomphe, que la façon dont est organisé aujourd'hui en France le dialogue social ne tient pas justement peut-être suffisamment compte de ces évolutions que vous venez de décrire, et que l'individualisation n'est pas très soluble dans une façon d'organiser le dialogue social qui commence quand même à dater aujourd'hui?
Il y a plusieurs remarques qu'on pourrait faire sur le dialogue social à la française. Le premier, quand même, c'est qu'il reste encore très pyramidal. C'est-à-dire que pas et ça interroge hein, autant le management que les organisations syndicales. Par exemple, la possibilité aujourd'hui pour, j'ai dit bien, chaque salarié de s'exprimer, de faire valoir sa voix dans le dialogue social est quand même une vraie question en France. Je dirais que la représentation l'emporte de loin sur la participation, hein, et surtout avec le taux de syndicalisation qui est celui de notre pays, dont je rappelle qu'il est le plus bas de tous les pays de l'OCDE.
Quand vous dites que ça interroge aussi les syndicats, est-ce que vous sous-entendez que certains syndicats, finalement, ne prennent pas tout à fait les responsabilités qu'ils pourraient prendre dans justement le dialogue social et dans le dialogue avec les directions? Est-ce que certains, finalement, se contentent d'une posture d'opposition?
C'est plus complexe que ça. Il y a évidemment ce type de posture, mais il y en a surtout une autre qui me paraît qu'un certain nombre de représentants du personnel sont pris aujourd'hui par leur mandat de représentation, si vous voulez. Ils passent leur temps, y compris d'ailleurs en réunion avec le management, au détriment du contact, je dirais, avec l'ensemble des salariés de l'entreprise. Il y a une deuxième chose qui, moi, me frappe, c'est que, si vous voulez, les collectifs de travail, les équipes de travail sont de plus en plus, je dirais, fragiles, précaires, temporaire, et c'est très compliqué hein, d'amener, je dirais, les gens à faire autre chose qu'une somme de revendications individuelles. Et puis il y a quand même une troisième chose qui me paraît assez forte, mais je souscris sur ce point à ce que vient de dire Christian Larose, hein, c'est qu'on a une très forte individualisation de la relation de travail, et on a quand même grosso modo un management qui répond assez peu à cette individualisation par autre chose que, je dirais, du management totalement individuel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, au lieu d'apporter des réponses collectives à une série de choses, on apporte des réponses individuelles, on ne sait pas manager. Et ça me paraît extrêmement fort par rapport aux autres pays européens. Nous sommes un pays qui n'apprend pas aux managers à, si vous voulez, entrer dans le dialogue social. La plupart des grandes écoles, la plupart des universités en France ne forment pas les futurs managers de demain à l'exercice responsable des relations sociales, et je crois que c'est une vraie préoccupation.
Je pense que Jean-Luc Vergne, sur ce point, je rappelle, en CDRH, va vous rejoindre, parce que vous dites, notamment dans votre livre, oui. où sont les DRH d'aujourd'hui. La bataille de l'image, dites-vous, elle a été gagnée par les syndicalistes, mais en face, les managers ne sont plus là. Et vous avez même une forme de nostalgie d'ailleurs, alors à la fois des grands DRH, mais aussi de certains syndicalistes. J'ai noté notamment cette phrase dans le livre. En tant que DRH, j'ai toujours voulu me frotter au plus rugueux, au plus puissant, au plus féroce des syndicalistes. Vous avez une forme de presse, c'est de nostalgie de l'adversité.
Non, c'est pas l'adversité, mais c'est quand même le plaisir et la conscience que le dialogue est important. Et pour moi, je l'écris dans ce livre de témoignages, aller dans la métallurgie, ça représentait pour moi, qui voulait faire les ressources humaines, ce qu'on pouvait appeler le nec plus ultra, quoi. Voilà.
Ouais, mais on voit bien que vous aimiez pas le dialogue trop tiède. Que ça soit un petit
non,
peu...
mais je pense avoir pas trop mal réussi, d'ailleurs, dans la métallurgie, dans le dialogue, et les résultats, peut-être. Mais je reviens, parce que je suis pas opposé à ce qu'a dit Christian Larose ou Claude-Emmanuel Triomphe. Je crois qu'en France, notre dialogue social est pas trop développé. Parce qu'il y a un État, souvent, qui est omniprésent, pour pas dire plus. Et c'est-à-dire qui définit les thèmes, définit la méthodologie, enfin, etc. Et l'emprise est trop importante. Derrière, on a un patronat qui est timoré, quoi, quand même. Il faut le dire, ou des directions. Je le dis à mes collègues, je le dis à des patrons. Vous vous plaignez que les tiers interviennent dans l'entreprise, c'est-à-dire le juge ou l'inspecteur du travail, dans les rapports, mais c'est à vous d'ouvrir avec les partenaires sociaux les discussions. Et ouvert à des sujets, il n'y a pas de sujet tabou. Ça va être la stratégie, aujourd'hui, la redistribution des profits, le management, les problèmes vie personnelle, vie professionnelle. Enfin, il y a plein de sujets à ouvrir. Ils sont timorés, je crois, ils ne le font pas. Et puis, aussi, il y a des organisations syndicales qui sont un peu fermées ou qui restent dans des positions qui sont des positions officielles et qui n'ouvrent pas sur des sujets qui correspondraient à la demande des gens qui sont censés représenter. Alors, voilà ce qui fait qu'on devrait pouvoir faire plus dans ce domaine du dialogue social.
Bon, j'ai cité un extrait de votre livre, Jean-Luc Vergne, je vais faire la même chose avec celui de Christian Larose, à propos des patrons, justement, des chefs d'entreprise. Alors là, peut-être aussi nostalgie, en tout cas vous parlez de ces vieux patrons qui avaient l'industrie dans la peau et l'intérêt du pays au cœur. Cette race de patrons a disparu pour laisser place à de jeunes managers froids. C'est plus compliqué aujourd'hui d'avoir un dialogue social quand on a cette sociologie, que ce soit du côté des chefs d'entreprise ou du côté des syndicats.
Je pense que moi j'ai rencontré des grands patrons industriels qui avaient l'entreprise au cœur, mais qui avaient aussi leurs salariés en considération.
Et qui étaient un peu paternalistes.
Paternalistes, pas seulement. Aujourd'hui, on a affaire à des gens qui sortent des grandes écoles, qui sont parfois des énarques un peu froids et qui sont loin des problèmes humains. Et ceux-là, il ferait bien d'aller un peu à l'école parce que le dialogue, ça commence par là. Ça commence par considérer celui qui est en face de vous, ça commence par écouter les autres. Et quand on parle de dialogue, parce que quand on regarde bien en France, moi je pense qu'on a probablement un des MEDEF, le MEDEF le plus rétrograde qu'on a eu ces trois dernières décennies. Il ne sort rien des négociations au plan interprofessionnel et au plan des branches, il ne sort pratiquement rien. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que dans ce cas-là, alors on a un patronat qui ne montre pas l'exemple sur le terrain de la négociation et on a un gouvernement qui se mêle du dialogue, et à chaque fois qu'il s'en mêle, comme par hasard, c'est toujours pour restreindre les droits des salariés. Sous le prétexte de fluidifier le dialogue social, on revoit le problème des instances, on revoit le problème des seuils, mais ça ne peut que gêner le dialogue social.
Et, donc il vaudrait mieux que ça se passe au niveau de l'entreprise ?
Je pense que d'ailleurs, même quand on dit, par exemple, qu'il y a des syndicats qui signent pas beaucoup d'accords, moi je m'excuse, mais si c'est la CGT qu'on vise, je le dis, la CGT signe, est un des syndicats qui signe le plus d'accords en bas, parce que
voilà, je crois qu'on est à plus de 80% voilà. D'accords signés par la CGT.
Donc on fait un procès qui est... Vous savez, les gens sont...
Pas Jean-Luc Vergne, CGT toujours très bien, CFTC gens, aussi. Il n'y a que la CFTC qui vous plaisait pas trop.
Les gens sont pragmatiques. Les syndicats sont pragmatiques. En bas, l'intérêt de l'entreprise, c'est est-ce qu'il n'y ait pas de grève, est-ce qu'il n'y ait pas de conflit. L'intérêt des salariés et l'intérêt des syndicats, c'est que les gens gardent leur emploi et gagnent leur vie. Donc il y a un intérêt à négocier. Et c'est pour ça que même une organisation comme la CGT, elle signe beaucoup d'accords en bas. Mais moi, je suis quand même inquiet de voir l'évolution du MEDEF aujourd'hui, qui, avec le gouvernement qu'on a, ne cesse d'essayer de ratiboiser tout ce qu'ils peuvent en matière de d'aide sociale, en matière de d'aide financière, d'allègement de charges. Et puis, le pacte de responsabilité, en face, il n'y a rien. En face, on n'a rien. Et puis, on a cette loi qui arrive, voilà. Alors, ça donne pas une bonne image de ce que devrait être le dialogue social.
Loi qui arrive d'ailleurs, faut préciser, hein, parce que les partenaires sociaux n'ont pas réussi à se mettre d'accord en janvier dernier sur une réforme du dialogue social. Alors, le dialogue social, il a été compliqué, même s'il y a eu quand même un certain nombre d'avancées depuis le début du quinquennat, notamment sur l'accord national interprofessionnel, même si j'imagine que pour quelqu'un qui vient de la CGT comme vous, Christian Larose, c'est pas un accord qui devait vous faire énormément plaisir. Quand le dialogue devient totalement impossible dans une entreprise, on fait quoi? C'est la question que je vais vous poser, Claude-Emmanuel Triomphe. Juste avant, je voudrais vous faire écouter ce petit extrait d'une des nombreuses assemblées générales que nous avons vécues à Radio France. Celle-là date du 24 mars dernier. Nous sommes au sixième jour de grève.
Avec la direction aujourd'hui, on ne peut plus fonctionner. Le dialogue social est bloqué. La négociation, entre guillemets, sur les quatre préavis de grève est totalement bloqué. Il y a un agitateur, il y a un provocateur qui vient foutre la zone dans les discussions. On l'a vu hier, et c'est pas n'importe qui, c'est le conseiller de Mathieu Gallet. Donc il avait un mandat très précis. Donc je pense que l'idée que l'État prenne ses responsabilités désormais, c'est à l'ordre du jour. Et on peut imaginer, ça a déjà été dit dans cet AG, mais qu'on le formalise et qu'on le dise d'une manière sans ambiguïté, probablement que au sixième ou septième jour de grève, une médiation s'impose désormais.
Jean-Paul Quenson, délégué syndical Sud à Radio France, on était donc au début de la grève dans la Maison Ronde. Claude-Emmanuel Triomphe, quand il n'y a plus du tout de dialogue, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que la médiation est la seule solution qui se présente aux parties prenantes?
Bah, en tout cas, il n'y en a pas une quantité. La médiation, en tout cas, est une solution. Le rôle du médiateur, c'est essentiellement, d'ailleurs, de renouer les fils du dialogue, faire en sorte que les parties acceptent de nouveau de discuter dans une atmosphère, je dirais, si ce n'est pacifié, en tout cas à peu près normal. Mais je crois qu'il faut surtout dire une autre chose, c'est que le médiateur, c'est une solution extrêmement temporaire et provisoire.
Il faut que ça soit quelque chose d'exceptionnel, parce que la médiation, par exemple, la médiation familiale, c'est quelque chose qui devient assez banal. Oui. Dans l'entreprise, non.
Non, attendez, mais pas plus exceptionnel et pas plus banal que dans les familles. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous voulez, le médiateur familial peut pas être dans la famille tout le temps. Eh bien, de la même manière, si vous voulez, le médiateur des relations professionnelles ne peut être là qu'à titre exceptionnel. Donc, je dirais, oui, ça doit être une exception, ça doit le rester. Enfin, qu'est-ce que ça voudrait dire, si vous voulez, qu'un dialogue social d'entreprise aux mains du médiateur, fût-il d'ailleurs de l'État, d'une entreprise de conseil ou que sais-je, ça ne peut pas marcher de manière normale de cette manière-là. Ensuite, je crois que le vrai problème du dialogue social à la française, c'est quand même la construction dans la durée de la confiance, si vous voulez. Et ça, c'est un vrai sujet. Et je ne crois pas, si vous voulez, la confiance ne se construit pas à coup de médiation. La médiation peut aider à renouer, à rebâtir des ponts, mais ensuite la confiance doit suivre sa propre route autonome.
Jean-Luc Vergne, je rappelle que vous êtes passé par Sanofi, Alpha Aquitaine, PSA, Peugeot, Citroën. Est-ce que vous avez eu besoin dans votre carrière d'avoir recours à de la médiation ?
J'ai vécu des conflits, parfois longs. En 2007, par exemple, l'usine d'Aulnay en grève pendant 33 jours. J'en ai vécu d'autres dans des unités, et même j'ai... Bon, quand il y a un conflit...
Et avec ou pas médiation, alors, du coup ?
Jamais. Médiation. Quand il y a un conflit, parce qu'il y a deux voies. La première, c'est la négociation. C'est-à-dire, à un moment donné, trouver le moyen que les interlocuteurs, quelles que soient les raisons, qui ne se sont pas entendus, mais se retrouvent pour parler. Alors, la seconde voie, c'est la médiation, qui va favoriser, peut-être, qui va permettre qu'ils se retrouvent plus facilement. Mais on revient quand même après à la discussion, aux échanges. C'est ça, le dialogue social. Donc, il faut passer par là. Alors, parce que la médiation en France, elle n'était pas très développée. Et puis, j'ai essayé, en mettant en place une cellule de crise, à la fois de conserver les contacts avec les leaders syndicaux qui étaient en face. Bon, contact parfois occulte, mais on sait ce que c'est, quoi. Si vous voulez pacifier...
On ne dit pas forcément aux salariés qu'on discute, mais on discute quand même.
Mais ça se sait, mais tout le monde le sait, qu'on se voit, qu'on se rencontre. Heureusement, ce n'est pas la guerre, si vous voulez. D'ailleurs, même si c'était la guerre, si on veut arriver à signer la paix, il faut bien qu'on se rencontre. C'est quand même... C'est le béaba. Donc, il faut se voir dans des terrains neutres, le soir, le week-end, et pour essayer de voir comment on en sort. Se poser la question, quelles sont les erreurs ? Et c'est ça le plus difficile du côté, par exemple, d'une direction comme des syndicats, qui font qu'on est arrivé au conflit. Qu'est-ce qu'on a pas vu ? Est-ce qu'on n'a pas vu, moi, direction, les vraies motivations des grévistes, qui n'étaient peut-être pas celles qui étaient revendiquées, mais derrière, il pouvait y avoir, alors qu'ils posaient un problème salarial, des problèmes de reconnaissance, des problèmes d'existence, des problèmes d'avenir, des problèmes d'évolution de carrière. Bon, c'est là où essayer de voir comment on va pouvoir répondre à ces motivations. Donc, il faut faire un travail qu'on n'a peut-être pas fait avant, qui est d'essayer de comprendre l'autre, l'interlocuteur. Qu'est-ce qu'il désire ? Chose qu'on n'avait pas compris. Et essayer de faire comprendre aussi à nos partenaires sociaux, aux organisations syndicales, les limites, c'est qu'on va pouvoir leur accorder et jusqu'à quel niveau ? Et là aussi, eux, il faut qu'ils prennent conscience.
Ça marche dans les deux sens, ça, Christian Larose. C'est-à-dire, côté syndicat, il faut aussi essayer de comprendre ce qu'attend la direction.
Non, mais bien sûr. Ceci étant, le médiateur, pour moi, c'est une forme d'échec. Et je vous dis franchement que le médiateur, il est là pour rapprocher les parties et pas pour prendre position pour l'un ou pour l'autre. Moi, j'ai vécu de nombreux conflits tout mon parcours. N'a été souvent qu'une succession de conflits, de négociations. J'ai jamais utilisé de médiateur. Pourquoi ?
Vous vous êtes retrouvé dans une situation de médiation, vous. Alors, je rappelais au début de l'émission que vous avez raconté avec d'autres l'histoire de Celatex. Je rappelle juste, hein, on est en juillet 2000, il y a un redressement judiciaire, occupation de l'usine. Alors, Celatex, c'est une usine de textile chimique. Donc, comme dirigeant de la fédération CGT du textile, vous êtes amené à intervenir. Les salariés menacent de polluer la rivière qui est proche. La direction est partie, hein, faut le rappeler. Donc là, c'est compliqué, justement, pour dialoguer. Parce que dialoguer avec qui ? Dialoguer avec les autorités. Et vous, vous allez être là. Alors, vous n'avez pas une fonction officielle de médiateur, mais vous êtes là quand même pour essayer de faire en sorte qu'on sorte de ce conflit. Comment on se retrouve dans cette position un peu délicate, j'imagine ?
Ouais, la première chose, c'est ce que les salariés voulaient. Les salariés voulaient que je sois le médiateur. Et moi, j'ai dit non, je ne peux pas être le médiateur. Par contre, ce que je peux faire, je peux essayer de rapprocher les points de vue entre le gouvernement, puisque le patron est parti, hein, sans payer les salariés. Le gouvernement, les syndicats, les salariés, les instances publiques, le préfet, etc. Parce que moi, je pense qu'il faut, plus c'est difficile, plus il faut prendre du temps, plus il faut écouter les autres, plus il faut être humble, et plus il faut penser qu'il faut trouver des solutions qui soient des solutions acceptables par tout le monde. Mais la question de Celatex, moi, je l'ai réglée avec le gouvernement, en disant, ben, s'il n'y a plus de patron, quel est mon interlocuteur ? Le préfet me dit, moi je suis préfet, je suis pas négociateur. Le mandataire judiciaire dit, moi je suis mandaté pour régler sur le plan judiciaire les choses. Je ne suis pas un interlocuteur pour vous, donc il n'y a plus personne. Donc moi, à ce moment-là, je me tourne vers le gouvernement et je dis, voilà, comment voulez-vous régler un problème comme Celatex si vous n'avez pas d'interlocuteur ? Donc le médiateur, je pouvais pas prendre le rôle de médiateur, donc moi j'ai dit à Martine Aubry à l'époque, maintenant il faut trouver une solution entre le gouvernement, les syndicats et les pouvoirs publics. Et on s'est mis tous autour de la table, ça s'est passé à la préfecture, naturellement qu'il y avait des réunions officielles et des réunions officieuses, parce que les négociations, elles continuent en dehors des réunions officielles pour essayer de faire avancer les choses. Et d'ailleurs, vous savez, dans tous les grands conflits, il y a les réunions officielles, puis il y a ce qui se fait à côté.
Bon, ce que nous disait Jean-Luc Vergnat.
Et ça, c'est normal, c'est la vie. Mais il y a une chose qui est sûre, il faut avoir confiance. Dans le dialogue, il faut aussi avoir des positions qui soient des positions crédibles. Nous, ce qu'on demandait à Celatex, c'était du travail. Hein, c'était du travail. Et si on n'avait pas de travail, qu'on nous forme les gens pour qu'ils puissent retomber dans un emploi plus tard. On ne demandait pas la lune. Mais vous savez, les médiateurs, moi j'en ai vu beaucoup opérer. Ça se règle rarement bien. C'est une affaire entre les salariés, les syndicats et la direction. Et la direction, elle doit entendre. Elle doit entendre un certain nombre de choses, même si ça lui plaît pas, même si elle n'a pas l'habitude, même si elle n'a pas été formée à ça. Il faut qu'elle apprenne à écouter les gens et qu'elle comprenne que on ne peut pas être toujours d'accord. Vous savez, c'est comme dans un couple, on n'est pas toujours d'accord, mais parfois on est quand même mariés ensemble.
La parole est à l'ancien médiateur, Claude-Emmanuel Triomphe.
Moi, ce que je voudrais dire surtout, c'est qu'il y a finalement un certain nombre de conflits qui se passent relativement bien, hein, entre guillemets. C'est les conflits qui portent, par exemple, sur les questions de salaire. Les conflits qui se passent, pour moi, le plus mal en France, ce sont des conflits liés, d'une part, à l'absence de reconnaissance mutuelle entre les partenaires, à l'absence, tout simplement, de reconnaissance des hommes et des femmes au travail, et aussi, bien sûr, à l'avenir de l'activité et de l'emploi.
Bah parce que c'est peut-être plus facile à mesurer, une augmentation de salaire. On voit quand elle arrive, la reconnaissance est plus compliquée.
Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est aussi une des spécificités des conflits à la française. C'est-à-dire que, si vous voulez, par exemple, on compare très souvent actuellement le modèle allemand et le modèle français. Il y a un truc qu'on oublie toujours de dire, parce qu'on parle du coût salarial en Allemagne, de la codétermination. Le management en Allemagne est beaucoup plus horizontal qu'en France, beaucoup plus innovant, beaucoup moins hiérarchique. Une anecdote donnée un jour par la direction générale de Volvo en Suède sur l'échec de la fusion avec Renault. Ils vous racontaient quoi? Chaque fois qu'il y avait des réunions conjointes entre les deux groupes, les Français envoyaient systématiquement les chefs et pas le spécialiste du dossier, alors que les Suédois mettaient le responsable du dossier. Eh bien, si vous voulez, quand on est dans une culture comme ça, on va, j'allais presque dire, au conflit plus rapidement que dans d'autres cultures.
Le modèle de codétermination à l'allemande, Jean-Luc Vergne, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait inspirer le dialogue social français? Est-ce qu'il faut associer davantage, par exemple, les salariés aux décisions, ou en tout cas au moins les consulter davantage, même si les organes de consultation existent, en tout cas au moins dans les grandes entreprises, il y en a de nombreux, j'ai cité au début de l'émission.
Mais, oui, enfin, si vous voulez, je connais qu'un exemple où on a fait appel aux salariés avec... une question type référendum, c'était Air France, hein, c'est Blanc qui l'a fait. Bon, c'était tout ou rien, moi je dis, je ne suis pas très favorable à ça. Bravo, Christian Blanc l'a fait, il a réussi, mais...
Vous voulez dire quoi, chacun son rôle?
Ben oui, parce que c'est un moyen de vouloir tuer les organisations syndicales, quoi. Moi, on a des interlocuteurs, ils sont là, il faut les considérer, ils sont représentatifs, et plus ils seront forts, plus ils représenteront les personnes, mieux ça sera pour les directions, c'est ça qu'il faut comprendre, et il faut mettre un certain nombre de sujets sur la table, parce qu'il n'y a pas de sujet tabou. La stratégie, c'est des choses importantes. Je l'ai développé, d'ailleurs, chez PSA Peugeot Citroën, en mettant un comité ad hoc à ce type, avec les organisations syndicales. La redistribution des profits, c'est un sujet important. Il faut quand même l'aborder. Et c'est ces thèmes-là où je trouve que parfois mes copains des RH ou les PDG sont un peu timorés. Ces problèmes du management, ces problèmes du digital, l'impact qu'il peut avoir sur les relations du travail, si on l'aborde pas dans l'entreprise. L'aborder, dialoguer, ça veut pas dire à tout prix rechercher un accord, mais c'est poser les bases même des problèmes. Au moment où vous avez des salariés qui sont anxieux, ils voient pas bien où le numérique ou le digital, ils ont une crainte parce que c'est pas tout à fait leur génération. Il faut démystifier là, il faut leur montrer qu'ils vont grandir aussi. Donc ces thèmes-là doivent être abordés. Hein. Voilà, j'ai plein de thèmes de ce type où je regrette qu'ils ne soient pas mis sur la table parce que c'est important et c'est bien les préoccupations des salariés.
Claude-Emmanuel Triomphe.
Astrée a récemment publié un rapport sur ce qu'on appelle la négociation atypique et notamment les pratiques référendaires au travail. Ce qui est très intéressant, c'est de montrer que les pratiques référendaires qui sont aujourd'hui ont été ouvertes par la loi sous différentes manières sont extrêmement peu utilisées par les entreprises. Donc on voit bien que c'est pas là la solution. Par contre, l'expression collective des salariés au travail, je pense que c'est une donnée absolument fondamentale et dont j'espère qu'elle va être plus utilisée par les entreprises. Et puis j'ajouterai une dernière chose. Monsieur Gallois a fait un rapport sur l'entreprise et il propose une chose qui, à mon avis, outre certaines évolutions qui ont déjà été actées par la loi, permettrait, à mon sens, de changer un peu les choses dans les entreprises. C'est, comme dans d'autres pays européens, de faire que le comité d'entreprise aujourd'hui soit présidé par un salarié et non pas par l'employeur. Alors je sais que c'est très controversé en France, mais Dieu sait si ça responsabilise les choses et ça donne, je dirais, une vraie autonomie et une vraie capacité de discussion dans les entreprises. Et quand on sort ça aux Français, on dit « Ah ben non, j'en veux pas ». Et vous savez pourquoi on n'en veut pas en France? Parce que la présidence du comité d'entreprise en France, c'est un héritage de Vichy.
Vous seriez d'accord avec ça, Christian Larose?
J'ai été plus loin que ça, moi. Quand j'étais président de la section du travail au Conseil économique et social, j'ai toujours posé la question, mais pourquoi les négociations interprofessionnelles se font toujours au MEDEF? Et pourquoi toujours à partir de textes du MEDEF? Ça, c'est une vraie question. C'est des problèmes de principe. Moi, je vois pas pourquoi les négociations interprofessionnelles se passeraient toujours au MEDEF avec des textes du MEDEF. Donc, le Conseil économique pouvait être un lieu pour ça, pas remplacer les négociateurs, naturellement, mais l'aider. J'ajoute une chose, c'est que il faut aussi savoir se dire ses limites. Jusqu'où on peut aller, les uns et les autres. Et vous savez, la confiance, restaurer de la confiance, même si on n'est pas d'accord, quand on a confiance à celui qui est en face de vous, ça aide, parce que on peut me rouler une fois, mais on me roulera pas deux fois. Bon, et quand on m'a roulé une fois, après tu ne peux plus avoir confiance. Donc le problème du dialogue, il est basé sur la confiance.
Eh bien, je vous propose que ça soit la phrase de fin pour cette émission. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les trois d'y avoir participé.
Merci à vous.
Jean-Luc Vergne, donc je rappelle, Itinéraire d'un DRH gâté, publié en 2013 chez Erol. Christian Larose, Itinéraire d'un syndicaliste, itinéraire deux fois un parcours accidenté, chez Pascal Gallaudet, éditeur, publié en 2013 également. Et puis Claude-Emmanuel Triomphe, on peut par exemple aller puiser quelques idées un peu novatrices en matière de dialogue social sur métisseurope.eu. Voilà, demain, je précise que dans les matins, le projet de loi sur le dialogue social fera l'objet d'une discussion à nouveau. Ce sera avec Jean-Marc Le Gall et Pierre Ferracci. Au programme du Grain, 18h20, faut-il avoir peur des lobbies ? Cette émission sera présentée par Mélanie Chalandon.